de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Le vaccin Covid doit être mis à jour pour une protection continue. Le Premier ministre britannique admet avoir assisté à une fête pendant le confinement. L'opposition exhorte à démissionner. Des dizaines de Sud-Coréens ont été infectés par la Covid après avoir assisté à une exposition aux États-Unis. La restriction sur le fret aérien menace l'approvisionnement en marchandises à Hong Kong. Les citoyens indonésiens retenus en otage par les Houthis au Yémen sont en bonne santé. L'Indonésie soutient la présidence cambodgienne de l'ASEAN tout au long de 2022. Et les mesures gouvernementales d'administrer le vaccin rappellent pour protéger les gens. Bon, cher Jouitard, voici la nouvelle en complet. L'Organisation mondiale de la santé OMS, mardi 11 janvier, heure locale, a déclaré que le vaccin COVID-19 actuel pourrait devoir être mis à jour s'il doit fournir une protection continue contre les nouvelles variantes émergentes de coronavirus, y compris Omicron. Le groupe consultatif technique de l'OMS sur la composition du vaccin COVID-19 TAGCOVAC, composé des 18 experts, a déclaré que bien que les vaccins actuels disponibles offrent un niveau élevé de protection contre les maladies graves et les décès causés par un certain nombre de variantes de COVID-19 préoccupantes à l'avenir, des vaccins capables de prévenir l'infection et la propagation devront être développés. Pendant ce temps, la composition du vaccin COVID-19 actuel devra être mise à jour pour fournir une protection et une immunité contre l'évolution du coronavirus. Comme rapporté par Reuters mercredi, les experts de l'OMS encouragent les fabricants des vaccins COVID-19 à fournir des données sur les performances des vaccins actuels et des vaccins spécifiquement pour la variante Omicron. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a finalement admis qu'il avait assisté à une soirée arrosée à Downing Street en mai 2020. À cette époque, le Royaume-Uni mettait en place un confinement strict en raison de la vague de la pandémie de COVID-19. Johnson a fait cet aveu lorsqu'il a été convoqué par le Parlement britannique pour demander des éclaircissements au Premier ministre sur le courrier électronique divulgué de son secrétaire invitant plus de 100 employés à assister à une fête au parc de Downing Street en mai 2020. Johnson a déclaré mercredi 12 janvier qu'il était au courant de la colère ressentie par de nombreuses personnes contre lui pour le gouvernement qu'il dirige, parce que les règles de la pandémie ne sont pas correctement suivies par les décideurs politiques. Johnson s'est également excusé pour sa négligence dans la violation des règles de confinement qu'il avait lui-même mises en place. Ainsi, Johnson a fait valoir que l'événement était un événement de travail. Il a admis qu'il regrettait de ne pas avoir appelé à son personnel lors de la fête de se disperser immédiatement et d'éviter la foule. Environ 70 Sud-Coréens ont été testés positifs pour COVID-19 après avoir assisté au CES, un salon géant sur la technologie à Las Vegas, aux États-Unis, la semaine dernière, ont déclaré des responsables de la santé sud-coréenne. Parmi les personnes infectées figurent un certain nombre de cadres et d'employés de grandes entreprises sud-coréennes. Environ 20 personnes de Samsung Electronics et environ 6 personnes de SK Group, la société holding énergétique du fabricant de puces SK Innovation, SK Hynix, figuraient parmi ceux qui ont été testés positifs pour COVID-19 après avoir assisté au CES. Ces cas risquent de frapper le contrôle COVID-19 en Corée du Sud. Le pays vient de réduire son nombre quotidien de cas par rapport à un niveau record. En décembre, un rétablissement des règles strictes de distanciation sociale et en adoptant largement les passeports vaccinaux. Pendant ce temps, Hyundai Heavy Industries a déclaré que si ces travailleurs qui ont assisté au CES ont été infectés aux États-Unis, ils sont mis en quarantaine et certains ont fini de l'exécuter. Des règles de quarantaine COVID-19 plus strictes sur les équipages de conduite risquent de réduire le trafic de fret et les fournitures entrant dans la ville. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, lors de la session d'ouverture de la nouvelle législature, a déclaré que Hong Kong avait déjà imposé les mesures les plus strictes contre les infections à COVID-19 en provenance de l'étranger et qu'il était difficile de les resserrer à nouveau. Les conséquences de cette politique de frais seront bientôt visibles, a déclaré Carrie Lam devant les législateurs mercredi. Selon Carrie Lam, Hong Kong n'a presque pas de marchandises entrant via des vols de fret. Carrie Lam prédit que certains articles ne seront pas disponibles ou qu'ils coûteront plus cher. L'alimentation, l'électronique et les médicaments seront les plus touchés. Plus tôt mardi, Carrie Lam a déclaré que les jardins d'enfants et les écoles élémentaires devraient arrêter les cours en face-à-face jusqu'à après le nouvel an lunaire début février. Un citoyen indonésien retenu en otage par la milice Houthi au Yémen est en bonne santé. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la protection des citoyens indonésiens de l'entité juridique indonésienne du ministère indonésien des Affaires étrangères, Judah Nugraha, mercredi. La prise d'otage a eu lieu le 16 janvier 2020. Alors que l'homme faisait partie de l'équipage d'un navire transportant du matériel médical pour un hôpital de campagne en Arabie Saoudite. Le navire a été intercepté par les Houthis alors qu'il se trouvait sur l'île de Socotra au Yémen. Judah a déclaré que l'équipage portant les initiales SHP avait communiqué avec la famille et les avait informés qu'ils étaient en bonne santé et recevaient un bon traitement de la part des Houthis. Il a déclaré que SHP travaillait sur le cargo Ruabe appartenant aux Émirats arabes unis. Judah a déclaré que le navire était actuellement détenu par le groupe Houthi au Yémen. Il y a 10 autres membres d'équipage de diverses nationalités. Le ministre des Affaires étrangères, par l'intermédiaire des représentants indonésiens à Abu Dhabi, Mascate et Riyad, se coordonne avec les parties liées pour restituer immédiatement le SHP. L'Indonésie soutient la présidence du Cambodge en 2022, qui porte le thème ASEAN Act, Addressing Challenge Together. Et en même temps, l'Indonésie se réjouit également d'une coopération plus étroite avec tous les pays membres de l'ASEAN pour résoudre divers problèmes et assurer la croissance économique dans leur région, en particulier en ce qui concerne les impacts de la gestion de la pandémie de COVID-19 dans les secteurs de l'économie, du commerce et de l'investissement en 2022. La directrice des négociations de l'ASEAN, Dina Kurniasari, a déclaré mercredi dans un communiqué à Jakarta qu'en outre, l'Indonésie encourage spécifiquement tous les pays membres de l'ASEAN à considérer d'avion des normes et durabilité basées sur des indicateurs dans les objectifs de développement durable ODD afin d'accroître la compétitivité des produits locaux et encourager les études liées à l'importance d'avoir des normes de durabilité dans l'ASEAN. Pendant ce temps, en ce qui concerne les négociations ASEAN-Canada, la réunion des hauts fonctionnaires économiques a convenu que le plan de travail et les termes de référence TOR pour la création du comité des négociations de l'accord de libre-échange ASEAN-Canada à CAFTA doivent être finalisés immédiatement pour que les négociations puissent démarrer immédiatement au début. Le membre de la commission NAF de la Chambre des représentants en charge de la santé et de l'emploi, Darul Siska, a déclaré que les mesures du gouvernement indonésien consistaient à effectuer un vaccin de rappel ou une troisième dose d'injection pour protéger le public de l'exposition à la COVID-19. Ce programme prouve que le gouvernement veut s'assurer que les gens sont en sécurité et que la propagation du virus peut être contrôlée. C'est ce qu'a affirmé Darul Siska dans une déclaration écrite reçue à Jakarta mercredi. Comme on le sait, le président Joko Widodo a administré une injection gratuite à la troisième dose du vaccin COVID-19. La politique du président a été saluée par divers partis, notamment le Parlement de la République d'Indonésie. Darul espère que toute la communauté soutiendra le programme en suivant immédiatement le vaccin quand ce sera son tour. Dans le même temps, il a demandé aux gouvernements locaux de réagir rapidement à la décision du président en renforçant les réalisations en matière de vaccination dans leurs régions respectives, en particulier pour les régions qui n'ont pas encore atteint 70% du premier vaccin et 60% du deuxième vaccin. Bon, cher Gétard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Française de Ritoc, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le monde alerte sur la variante de COVID-19 Omicron ». Le nombre de personnes infectées par le virus COVID-19, la variante Omicron, continue de s'accélérer. La propagation de ce virus semble imparable. De jour en jour, le nombre de pays signalant que leurs citoyens sont infectés par le virus Omicron augmente de plus en plus. En Europe, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré qu'il y avait plus de 7 millions de nouveaux cas de la variante Omicron dans la région au cours de la première semaine de janvier. Ce nombre a plus que doublé en seulement 2 semaines. Le directeur de l'OMS de l'Europe, Dr. Hans Klug, a déclaré mardi 11 janvier 26 pays sur son territoire signalent que plus de 1% de la population est infectée par la COVID-19 chaque semaine. Klug cite des estimations de l'Institute of Health Metrics de l'Université de Washington selon lesquelles la moitié de la population d'Europe occidentale sera infectée par la COVID-19 dans les 6 à 8 prochaines semaines. Klug est très préoccupé par le fait qu'à mesure qu'Omicron se déplace vers l'Est à travers le continent de l'Europe, la variante provoquera beaucoup de victimes dans les pays où les taux de couverture vaccinale sont plus faibles. Au Danemark, a-t-il noté, le taux d'hospitalisation pour coronavirus était 6 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées par rapport au groupe qui avait reçu le vaccin. Pendant ce temps, lundi 10 janvier, aux États-Unis, il y avait 1,35 million de nouveaux cas de COVID-19 par jour. Il s'agit des cas quotidiens les plus élevés au monde, dû à la variante Omicron. Le taux moyen de mortalité est de 1 700 personnes par jour. Ce nouveau record de cas intervient également au milieu d'une augmentation du nombre de patients hospitalisés. Ce chiffre a dépassé le précédent record de plus de 132 000 enregistrés en janvier 2021. L'augmentation des cas aux États-Unis a également perturbé le processus d'apprentissage en face à face dans les écoles. La perturbation s'est produite à cause du personnel, des enseignants et des chauffeurs d'autobus scolaires infectés. La ville de New York a suspendu le fonctionnement de 3 lignes de métro parce qu'un grand nombre de ses employés étaient malades. Les projets de diverses entreprises de réimposer le travail au bureau ont été entravés en raison de l'augmentation des cas de COVID-19. La Pologne est également en deuil. Mardi 12 janvier, le pays a enregistré plus de 100 000 décès depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 24 personnes sont décédées lors de la dernière vague depuis octobre de l'année dernière. L'augmentation du nombre de personnes infectées par la variante Omicron au Japon fait également que le gouvernement du pays maintiendra des restrictions d'entrée strictes jusqu'à fin février. Le Japon a adopté certains des contrôles aux frontières les plus stricts au monde lorsque la variante Omicron est apparue à la fin de l'année dernière, interdisant tous les arrivants d'entrée, y compris les étudiants et les membres étrangers de la famille du Japon ou les résidents permanents, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La propagation du virus COVID-19 de la variante Omicron s'est également produite en Indonésie. Selon le ministère de la Santé, jusqu'à lundi 10 janvier, il y avait un total de 506 cas de COVID-19 de la variante Omicron en Indonésie. La directrice de la prévention et du contrôle des maladies contagieuses du ministère de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a déclaré que la zone de cas d'Omicron était encore dominée par les voyageurs de l'étranger et que 84 cas étaient des transmissions locales. Par conséquent, il a souligné que le public doit être prêt à affronter la vague Omicron compte tenu des caractéristiques de la variante qui se propage très rapidement. Bien que la variante Omicron ait des symptômes plus légers, toute la communauté doit rester vigilante étant donné que la transmission est très rapide. Une augmentation du nombre de personnes infectées pourrait mettre à rude épreuve la capacité des établissements de santé et perturber les opérations d'autres secteurs. Plus important encore, les protocoles de santé sont toujours mis en œuvre, notamment le port de masque, le maintien de la distance sociale et le lavage des mains. Bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
C'est Zeritok, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 janvier 1930. La bande dessinée Mickey Mouse est sortie pour la première fois. Mickey Mouse est un personnage de dessin animé fictif en forme de souris qui est devenu une icône pour The Walt Disney Company. Ce personnage a été créé par Ub Iwerks dans les années 1920. Mickey Mouse est la première bande dessinée Disney publiée. La bande dessinée a fait ses débuts le 13 janvier 1930 et a duré jusqu'au 29 juillet 1995. En 1931, la bande de Mickey Mouse est publiée dans 60 journaux aux États-Unis ainsi que dans des journaux de 20 autres pays. À partir de 1940, les bandes dessinées de Mickey Mouse ont été réimprimées dans les bandes dessinées mensuelles et l'histoire de Walt Disney. Cependant, Walt Disney Company a fixé l'anniversaire de Mickey Mouse le 18 novembre 1928, date de sortie du film d'animation Steamboat Willie, le premier film d'animation Mickey Mouse utilise le son. Passons maintenant à l'événement du 13 janvier 1993. La Convention sur les armes chimiques a été signée. La Convention sur les armes chimiques est un traité sur le contrôle des armes qui interdit la production, le stockage et l'utilisation d'armes chimiques. La Convention sur les armes chimiques est un traité sur le contrôle des armes qui interdit la production, le stockage et l'utilisation d'armes chimiques. La convention a été signée le 13 janvier 1993 à Paris, en France, et régie par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, une organisation intergouvernementale basée à La Haye, aux Pays-Bas. La convention sur les armes chimiques interdit l'utilisation, la mise au point, la production, le stockage et le transfert d'armes chimiques à grande échelle. La production d'armes chimiques est très limité pour des raisons de recherche, de traitement, de pharmacie et de protection encore autorisées. Initialement, 165 pays ont signé cette convention. 65 d'entre eux l'ont ratifiée. Maintenant, 193 pays ont signé la convention. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 janvier 2001, un tremblement de terre a secoué San Miguel, El Salvador. Le 13 janvier 2001, un tremblement de terre a secoué San Miguel, El Salvador. Ce tremblement de terre a fait 944 morts, 5565 blessés et des centaines de milliers de maisons et de bâtiments endommagés. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre. Le gouvernement provincial de NTT soutient le programme de conservation de PNUD à Flores. Le gouvernement provincial de Nusa Tenggara Est, NTT, soutient le programme de conservation des dragons de Komodo et d'autres espèces menacées mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'île de Flores. Le sous-gouverneur de NTT, Joseph Nesoy, a tenu une réunion avec le coordinateur du programme de conservation intitulé « Investir dans les dragons de Komodo et d'autres espèces mondialement menacées à Flores ou in Flores ». Dans un communiqué de presse reçu dimanche, le sous-gouverneur de NTT, Joseph Nesoy, a déclaré que le gouvernement provincial de NTT était prêt à fournir les lettres de soutien et les recommandations nécessaires au PNUD pour la mise en œuvre du programme IN Flores dans le contexte de la conservation d'animaux zhangxiang. Les dragons de Komodo et leurs écosystèmes environnants, y compris l'autonomisation des communautés dans la zone. Il a souligné l'importance d'une division claire des tâches entre le PNUD et le gouvernement provincial dans la mise en œuvre des programmes de conservation des dragons de Komodo et d'autres espèces menacées sur l'île de Flores. Pendant ce temps, la coordinatrice du programme In Flores de PNUD, Francisca Sugi, a expliqué que le PNUD, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, a soumis une proposition pour le programme IN Flores au Fonds pour l'environnement mondial, FEM. Le FEM a approuvé un financement de plus de 80 milliards de roupies pour une période de 6 ans, allant de 2022 à 2028. Elle a déclaré que le programme de conservation du PNUD serait mis en œuvre dans l'habitat de dragons de Komodo dans trois districts, à savoir Manggarai Occidental, Manggarai Oriental et Ngada. Le programme, selon elle, couvrira les efforts de conservation intégrée, le développement économique des communautés autour de l'habitat du dragon de Komodo, ainsi que le développement de la recherche sur les dragons de Komodo, la flore et la faune dans la zone de conservation du dragon de Komodo. Chers auditeurs, c'est en Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat lambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Chers auditeurs, chaque région d'Indonésie a sa propre cuisine spéciale. Par exemple, la région de Magelang au centre de Java a de nombreux aliments spéciaux, dont l'une est la soupe Senerek. Cette soupe est typique de Magelang, Java Central. Soi-disant, cette soupe a été adaptée de la cuisine néerlandaise. Senerek vient du vocabulaire néerlandais à savoir snert, qui signifie soupe au pois. Dans le passé, les soldats néerlandais préparaient souvent la snert soup à Magelang. Cependant, parce que la langue de la communauté locale a du mal à prononcer snert, le terme senerek a été créé. En plus de petits pois, la soupe senerek se compose de morceaux de bœuf ou de poulet, de carottes et des feuilles de céleri qui sont ensuite mélangées avec du bouillon. Cette nourriture est servie en différentes versions. Il y a une soupe claire, mais il y en a aussi une épaisse. Lorsqu'elle est mangée, cette soupe a un goût si savoureux et délicieux avec l'arôme enivrant de poivre. La soupe senerek est plus délicieuse lorsqu'elle est consommée avec du riz chaud. De plus, cette soupe sera encore plus délicieuse si elle est dégustée avec des accompagnements comme du tempeh, du tofu, du perkedel à la viande et des crevettes bakwan. Cette soupe est très riche en nutriments car elle utilise de bœuf et de bouillon, puis ajoutée avec des pois riches en protéines et des carottes et des tomates riches en vitamines. Cette soupe convient au maintien de l'endurance corporelle. Si vous êtes intéressé par la dégustation de la soupe senerek, cette nourriture typique est largement vendue dans les stands de nourriture de la ville de Magelang avec un prix allant de 15 000 rupiah à 20 000 rupiah par portion. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Bisik pasir deburan ombak, temani
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur intitulée l'application de surveillance de quarantaine de précision. Le gouvernement indonésien exige que ceux qui voyagent à l'étranger qui retournent en Indonésie soient mis en quarantaine. Et pour surveiller la quarantaine, la police nationale indonésienne a lancé l'application de surveillance de la quarantaine de précision à l'aéroport Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, le 6 janvier 2022. Le chef de la division des relations publiques de l'inspecteur général de la police nationale, Dedi Prasetyo, a déclaré que le lancement de l'application comme suivi de la police sur les instructions du président Joko Widodo qui a demandé qu'il n'y ait pas de dispense de subir une quarantaine pour les citoyens qui venaient d'arriver de l'étranger. Le lancement de cette application faisait partie également de l'engagement du gouvernement et de la police nationale à atténuer la propagation d'Omicron en Indonésie. Selon Dedi, la police nationale a également préparé un groupe de travail au Polda Metro Jaya, à l'aéroport de Polrestro et soutenu par le siège de la police nationale pour surveiller les entrées à l'aéroport afin de discipliner les règles de quarantaine pour les voyageurs étrangers. Via cette application, les agences peuvent obtenir des informations sur le profil des acteurs de la quarantaine, notamment la période de quarantaine, l'origine d'arrivée, les résultats des tests PCR et toutes les données provenant des données du ministère de la Santé. De plus, les agences recevront des messages de notification si un participant en quarantaine surveillé se trouve à 200 mètres en dehors du rayon de quarantaine. Pendant ce temps, les parties qui peuvent accéder à l'application Pendant ce temps, les parties qui peuvent accéder à l'application sont les acteurs de la quarantaine, les officiers autorisés, les centres de commandement et les dirigeants. Cette application est téléchargeable dans l'application Play Store pour Android et iOS pour Apple sous le nom Publisher Diff ICT Polri. Ensuite, le QR code est également disponible au point de quarantaine. Pour utiliser cette application, les résidents en quarantaine se connectent à l'application avec le numéro de téléphone portable enregistré lorsqu'ils arrivent sur le lieu de quarantaine. Et ensuite, les participants en quarantaine scannent le code QR. Après cela, l'application affichera le compte à rebours de la quarantaine. Lorsque l'application est active, les coordonnées des participants à la quarantaine seront périodiquement stockées dans le tableau de bord de la police. Par conséquent, si le participant se trouve à une distance de 200 mètres en dehors du lieu de quarantaine, l'officier et le centre de commandement recevront une notification. Si la période de quarantaine se termine, les acteurs de quarantaine peuvent check out. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Around with me, oh, and darling, I'm a mistake. Intent for better days.
chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Ruth Sahanaya. Sur Jaita Ruth Sahanaya ou Ute, une diva indonésienne active dans le monde du chant depuis 1987. Son premier album, Seputi Kasih, sorti en 1987, a explosé sur le marché à cette époque. Sa carrière est de plus en plus réussie après la sortie de la chanson Kaula Segalanya. Le succès de la chanson a incité de jeunes musiciens tels que Claresta et Sami Simorangkir à la réarranger avec une version moderne. Kaula Segalanya raconte l'histoire de quelqu'un qui est très important dans sa vie. Selon elle, il est tout. Chers auditeurs, voici Ruth Sahanaya va chanter une chanson intitulée Kaula Segalanya. Tu es tout. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.